Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui va quitter ce ton funèbre pour vous indiquer que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, comme je le rappelle ou je l'apprends à nos nouveaux éditeurs à chaque émission. Une émission donc consacrée à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale plus ou moins pertinente, mais toujours pertinente dans 24 notes secondes, les petites images qui bougent. Et ce jour dans 24 notes secondes, eh bien nous allons consacrer notre bien brève émission à la vie bien brève d'une icône romantique, il faut bien le dire, du cinéma français. Je ne sais pas si aujourd'hui encore son visage, son nom, ses rôles sont familiers aux jeunes, mais en tout cas, jusqu'aux années 70-80, Gérard Philippe, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, fut vraiment une icône du cinéma français et même du théâtre français. Il l'aura été tout au long de sa brève existence et il le restera, alors, par la grâce du cinéma et par la grâce des nombreux films et des quelques chefs-d'œuvre qu'il aura tournés. Il était né le 4 décembre 1922 à Cannes, dans le Var, ville prédestinée s'il en était, et son père s'appelait Marcel Philippe, mais sans E. Pour une raison qui reste ignorée de ma petite fiche, il décidera plus tard, quand il commencera sa carrière, de rajouter un E. C'est pour ça qu'on l'appelle Gérard Philippe, mais attention, avec un seul P. C'est pour ça que je précisais la chose. En 1941, Marc Allégret, qui est un grand réalisateur du cinéma français des années 30 à 60 à peu près, et qui aura découvert un nombre incalculable de talents, aussi bien avant-guerre qu'après-guerre, puisque sans lui, Brigitte Bardot ne serait rien, ou presque, même avant Roger Vadim, eh bien, Marc Allégret remarque et fait passer une audition au jeune Gérard et lui fait même suivre des cours d'art dramatique. Il y a vraiment des gens qui ont une sorte de prescience pour révéler de talents des autres, car rien ne dit que Gérard Philippe, sans cela, se serait orienté vers une carrière d'acteur. Et il débute d'abord au théâtre en 1942, donc dans une période bien contrastée, relativement tourmenté, mais où, en tout cas, à Paris, eh bien, on continuait à jouer dans les théâtres, les musicals, les films, etc., où il y avait une vie culturelle d'une intensité, oserais-je, presque plus grande qu'avant et après l'occupation. Et donc, en 1942, Gérard Philippe débute aux côtés de Madeleine Robinson, qui est elle-même encore relativement débutante, dans une pièce d'André Roussin intitulée « Une grande fille toute simple », et c'est Yves Allégret, le frère de Marc Allégret, qui en 1944 donne son premier rôle au cinéma, fort bref bien sûr, à Gérard Philippe dans La Boîte aux Rêves, avant que son frère, Marc Allégret, vous avez suivi, lui donne un rôle un peu plus étoffé, cette même année 1944, dans Les Petites du Quai aux Fleurs. On voit ensuite Gérard Philippe, 2 ans plus tard, dans Le Pays sans étoiles de Georges Lacombe, et surtout dans L'Idiot, d'après Dostoïevski, de Georges Lampin, où il joue le rôle de l'idiot, le prince Mishkine, le personnage principal du roman de Dostoïevski. Mais c'est en 1947 qu'il va connaître une consécration qui ensuite ne le quittera plus jusqu'à la fin de son existence, avec un film de Claude Autant-Lara intitulé Le Diable au corps, un film qui aura beaucoup fait parler de lui avant, pendant et après son tournage. J'ai déjà été assez bavard. La bande originale de ce film, elle est signée de René Cloérec. On écoute un extrait et on débriefe ensuite dans 24 notes secondes.
Thank you.
un extrait, plusieurs même, de la bande originale du Diable au corps, une musique de René Cloérec, un film de Claude Autant-Lara, 1947, mais c'est en 1923 qu'était paru le roman de Raymond Radiguet, dont le film est l'adaptation. Un roman qui avait fait scandale, hein, puisque, en gros, l'histoire, eh bien, c'est celle d'une jeune femme dont le mari est au front pendant la guerre de 14-18 et qui tombe amoureuse, et réciproquement, d'un tout jeune homme, d'un collégien, en fait, évidemment, elle trahit en fait son mari au front, et même en 1924-1923, tout ça était encore difficilement supportable, d'autant plus que Raymond Radiguet, l'auteur du roman, eh bien, mourut l'année même de la parution du livre. Il n'avait que 20 ans. C'est grâce à Jean Cocteau qu'il avait pu se révéler à lui-même et dans sa brève existence écrire des poèmes et deux romans, donc Le Diable au corps et Le Bal du Comte d'Orgel, qui parut de manière posthume l'année suivante, 1924. Donc vous l'avez suivi, et 20 ans plus tard, eh bien, l'annonce de l'adaptation du roman provoqua, après la Seconde Guerre mondiale cette fois, eh bien, les mêmes levées de boucliers et la même haine. Pour avoir travaillé un peu sur la jeunesse du film, j'étais frappé de voir avec quelle violence les critiques et les journalistes critiquaient non pas le film terminé, mais l'idée même de tourner le film, ce qui était quand même assez hallucinant. Mais Claude Autant-Lara, qui en avait vu d'autres et qui en verrait d'autres après, tint bon, et il eut raison, puisque le film fut un très grand succès, alors à la fois critique, puisqu'il obtient plusieurs prix, et surtout un succès commercial qui permit à Micheline Prel, qui est l'interprète de Marthe Grangier, la jeune femme donc du soldat, qui était déjà une actrice aguerrie, et à Gérard Philippe, dont c'était après tout le troisième film en tant qu'acteur plus ou moins confirmé, eh bien de connaître une célébrité absolument phénoménale. Il avait 25 ans en 1947, comme vous l'aurez peut-être calculé, donc il était déjà un peu âgé pour jouer le rôle du collégien. C'est vraiment un collégien, hein, qui est le héros du roman de Raymond Radiguet. Il n'empêche que sa partition, c'est joli, sa participation et son interprétation étaient absolument magnifiques, et qu'à partir de là, pendant la dizaine d'années qui va suivre, eh bien Gérard Philippe domina de tout son charme, de toute son élégance, son charisme, et bien domina à la fois le cinéma et le théâtre français, puisque c'est dans les années 50, un peu après Le Diable au corps, qu'il rencontre Jean Villard, le créateur du Théâtre National Populaire, et qu'avec lui, eh bien, il va connaître une carrière, elle aussi triomphale, personne n'aura oublié, en 1951, dans le cadre du Festival d'Avignon, la création du Cid de Corneille, avec évidemment Gérard Philippe dans le rôle principal du Cid. Et Gérard Philippe, en tout cas tant que sa santé le lui permettra, poursuivra de part et d'autre à la fois une carrière d'acteur de théâtre, mais de théâtre populaire, c'est-à-dire pas de jouer dans des petites salles, mais de jouer dans l'immense salle du TNP, du Palais de Chaillot, et encore plus au Festival d'Avignon, et puis une carrière d'acteur qui le mènera à jouer des rôles tout à fait différents, puisqu'on va passer, pour ne pas être trop bavard, à un film qui lui aussi confortera encore le statut iconique de Gérard Philippe, mais dans un registre totalement différent de celui de Diable au corps, puisqu'il s'agit de Fanfan la Tulipe, tourné par Christian Jacques en 1952, un film qui se passe sous Louis XV, au XVIIIe siècle donc, à l'époque de la guerre en dentelle, et Fanfan est un coureur de jupons qui finit par tomber amoureux de Gina Lollobrigida. On ne peut pas lui en vouloir de ça. Ma foi, le tout est une fantaisie et ne se veut rien de plus. Mais Gérard Philippe y est absolument époustouflant. Et on écoute un extrait très court, hélas, de cette bande originale signée Georges Vamparis dans 24 notes secondes. Voilà un très court extrait, hélas, de la bande originale de Fanfan à la Tulipe, un film de Christian Jacques. À la sortie du film, André Bazin, qui était un des grands critiques de cinéma de l'époque, dira que Gérard Philippe était dans ce film une sorte de Douglas Fairbanks voltairien et bien français, au charme irrésistible. On ne saurait mieux dire charme irrésistible. C'était effectivement, je dirais, le talent de Gérard Philippe, mais tout en privilégiant quand même des rôles ayant une certaine tenue, puisque cette année-là, aussi étonnant que cela apparaissent pour une comédie, eh bien le film obtient le grand prix de la mise en scène au Festival de Cannes en 1952. C'est pas dans les festivals de Cannes d'aujourd'hui qu'on verrait des grands prix accordés à des comédies, je ne vous le fais pas dire. On va rester cette même année 1952, on va rester dans la comédie, on va écouter un extrait d'un film intitulé Les Belles de Nuit, une sorte de variation à sketch dans lesquelles les Belles de Nuit sont interprétées notamment par Gina Lollobrigida à nouveau et par Martine Carole, qui était la grande vedette féminine de l'époque, avant qu'elle ne soit détrônée par Brigitte Bardot, déjà citée par ailleurs. Gérard Philippe joue le rôle d'un obscur professeur de musique qui évidemment s'invente des aventures amoureuses. Et c'est encore ce cher Georges Vamparis qui est derrière la partition. Les Belles de Nuit, 24 autres secondes.
Les belles de nuit se sont entr'ouvertes comme un souvenir dans le jardin noir, comme les regrets que le songe éveille. Quand les yeux fermés, je crois te revoir. Je te reverrai chaque nuit au bord de l'ombre, au fond des songes. C'est ton souvenir que je suis, au bout du monde, au creux des nuits. Et quand une porte s'ouvre, je te retrouve comme autrefois. Le passé dans notre chambre ne cessait pas de nous attendre. Je n'ai qu'à rêver pour comprendre que tu m'aimes comme autrefois. Les belles de nuit se ferment à l'aube. Le soleil d'été brûle les regrets, mais le vent du soir pousse les fantômes vers le rendez-vous de ceux qui s'aimaient. Je te reverrai chaque nuit au bord de l'ombre, au fond des songes. C'est ton souvenir que je suis, au bout du monde, au creux des nuits. Entre les murs de la chambre, notre amour tremble à chaque bruit. Et chaque bruit nous rappelle que bientôt lui, l'aube cruelle. Fidèle, je te reverrai chaque nuit.
C'est la joliment nommée Eliane Embrun qui vous chante la chanson des Belles de Nuit, rien que pour vous. Une musique de Georges Vamparis, un film de René Clair tourné en 1952 avec Gérard Philippe dans le rôle principal. Alors René Clair, Gérard Philippe, eh bien ces deux-là avaient déjà tourné en 1950 la fameuse Beauté du Diable, vaguement adaptée du Faust de Goethe, avec Michel Simon aux côtés de Gérard Philippe. Et ils se retrouveront en 1955, cette fois fois, Gérard Philippe sera aux côtés de Michel Morgan pour les grandes manœuvres de grands films et pour les grandes manœuvres, tout comme pour Belle de Nuit, des comédies, un peu aussi La Beauté du Diable, juste pour illustrer la palette de Gérard Philippe qui était loin de se limiter au rôle dramatique qu'il a souvent interprété au théâtre. On se souviendra aussi du Caligula d'Albert Camus, mais au cinéma, eh bien, il pouvait faire montre d'une fantaisie tout à fait allègre, comme Fanfan la Tulipe, déjà cité. Et on va rester dans ces années 50 pour écouter un extrait d'une bande originale d'un film d'Yves Allégret. Encore une fois, les Allégret qui auront quand même fait beaucoup pour la carrière de Gérard Philippe. Un film intitulé Les Orgueilleux, sorti en 1953 et qui lui était la première rencontre entre Michel Morgan et Gérard Philippe sur un écran. Évidemment, ils se rencontreront ensuite, vous avez suivi au moins, pour Les Grandes Manœuvres 2 ans plus tard. Alors Michel Morgan en 1953, je ne veux pas être impoli, mais elle avait débuté avant-guerre, donc elle avait déjà une bonne vingtaine d'années de carrière entre guillemets derrière elle. Pour Gérard Philippe, c'était un peu plus contrasté. Alors le tournage du film fut tout à fait tourmenté et à vrai dire, le film était adapté d'un roman de Jean-Paul Sartre intitulé Typhus, mais Jean-Paul Sartre refusa que son nom figure au générique parce que vraiment on ne reconnaissait absolument plus rien de ce qu'il avait pu écrire. Il faut dire qu'une fois Gérard Philippe embarqué dans l'aventure, les scénaristes, en l'espèce Jean Orange, Pierre Bost et un troisième larron, avaient été invités à étoffer fait son rôle par rapport à celui de Michel Morgan, qui raconte dans ses mémoires qu'au fur et à mesure des tournages, eh bien, elle voyait le nombre de scènes la mettant en vedette diminuer et le nombre de scènes mettant en vedette Gérard Philippe augmenter, ce qui lui laissa quand même un goût amer à quoi ça tient. On écoute un extrait de cette bande originale, Les Orgueilleux, une musique de Paul Mizraki dans 24 notes secondes.
Il fait chaud sur la terrasse et sur la petite place où murmure un filet d'eau. Pas de brise qui caresse, mais un fardeau de paresse qui vous couche sur le dos. Le frais d'un banc de marbre, je me cale au pied d'un arbre, tout engourdi de sommeil. Et je fuis les idées sombres, endormant la tête à l'ombre et les pieds au grand soleil. À sa fenêtre cherche un souffle de bien-être en écartant ses rideaux. Et croyant n'être pas vue, montre qu'elle est demi-nue. Ça fait un joli tableau. Un peu ses membres, puis retourne vers sa chambre dans le plus simple appareil. On connaît des joies sans nombre quand on dort la tête à l'ombre et les pieds au grand soleil. Ma soif qui se réveille, mais atteindre ma bouteille représente un grand effort. Je renonce à cette lutte, je boirai dans 10 minutes, tout à l'heure mais pas encore. D'elle qui m'est apparue si belle dans sa blanche nudité. Et voilà qu'enfin je sombre par 35 degrés à l'ombre dans un puits de volupté.
Vous aurez ou pas reconnu la voix d'Yves Montand. On se demande bien ce qu'il vient faire là, parce qu'il ne joue pas dans le film Les Orgueilleux, Yves Allégret, 1953. Par contre, si on écoute attentivement les paroles, eh bien, il décrit parfaitement le destin de Georges, le personnage interprété par Gérard Philippe, notre héros du jour, dans ce film assez contrasté, enfin, dont le tournage a été assez compliqué, tel que le raconte Michel Morgan, c'est son point de vue, bien sûr. Dans ses mémoires, Gérard Philippe, donc, qui, en 1953, est vraiment au sommet de sa carrière. Ensuite, on le verra notamment jouer Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir de Claude Autant-Lara en 54. De même, il avait joué Fabrice Del Dongo dans La Chartreuse de Parme de Christian Jacques en 1948. On le verra même signer un film, Les Aventures de Till l'Espiègle, en 1956. Till l'Espiègle, qui est un héros belge, un peu une sorte d'équivalent de Fanfan la Tulipe, mais toute proportion gardée. Et puis, quelques autres. Et puis, le 5 novembre 1959, eh bien, Gérard Philippe est hospitalisé à la clinique Violet à Paris, où on lui diagnostique un cancer du foie. Et 20 jours plus tard, il décède. Le 25 novembre 1959, il a 37 ans. Il est au sommet de sa gloire, autant dire que sa mort n'est pas sans frapper les imaginations. Et du coup, c'est facile à dire, mais c'est peut-être ça qui le fige justement dans ce charisme magnifique qui a été celui de sa carrière et qui fait qu'aujourd'hui encore, en tout cas pour ceux qui supportent de voir des films en noir et blanc, il reste une icône du cinéma français. Et on va se quitter en écoutant la bande originale de son avant-dernier film, Les Liaisons dangereuses 1960, qui est une revisite du fameux roman de Coderlos de Laclos, ma foi pas forcément très réussi, mais on prend ce qu'on peut. Aux côtés de Gérard Philippe, Jeanne Moreau, Annette Vadim, Jean-Louis Trintignant et quelques autres. La musique, elle est signée de Art Blaquet et de quelques autres aussi. Les Liaisons dangereuses 1960, 24 notes secondes. Et voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.